Bonjour, au microphone Raymond Beaugrand Champagne. J'aimerais vous parler aujourd'hui, tout d'abord évidemment, de Saint-Laurent, c'est sa fête. Saint-Laurent qui a donné son nom à notre fleuve, au golfe Saint-Laurent, aux Laurentides, à Ville-Saint-Laurent, à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, etc. Un saint dont on ne sait pas si ce qu'on raconte à son sujet est tout à fait authentique, vous le verrez tout à l'heure. Mais c'est magnifique et je tiens à vous le raconter. Il faut prendre ça un peu comme certains livres de la Bible, comme, le livre de Jonas, ou le livre de Job, ou les paraboles de Jésus quand il nous raconte, l'enfant prodigue ou le bon samaritain, etc. On sait que ce sont des histoires qui contiennent des enseignements extrêmement importants, et même fondamentaux souvent. Eh bien, nous avons la même chose aujourd'hui avec Saint-Laurent. Il y a aussi, en ce jour, certaines fêtes, comme il y avait Sainte-Philomène, je pourrais vous en parler, cette fameuse Sainte-Philomène, n'est-ce pas, dont l'histoire commence surtout vers 1805, ou même 1802, au siècle dernier, qui a été une sainte qui était grandement invoquée par le curé d'Ars, dont nous avons parlé la semaine dernière. Mais parlons donc de Saint-Laurent, et je parlerai plus tard d'une petite sœur de l'Assomption, peu connue, ignorée, qui s'appelait Clotilde Joubert, et qui était une grosse sœur. Oui, elle était ronde. La balance devait marquer un bon poids sous sa charge, mais quelle sœur merveilleuse que sœur Clotilde Joubert, des petites sœurs de l'Assomption, fondée par le père Pernet. Je commence le tout avec un saint dont je vais vous parler très brièvement, parce que c'est aussi une très belle histoire. On pourrait dire que c'est le patron des gens qui travaillent durant la fin de semaine. Écoutez bien cette petite histoire très brève. Il s'appelait en latin Deus Dedit, c'est-à-dire Dieu donné. On voyait ce nom-là autrefois, Dieu donné. C'est un beau nom au fond. Je crois que c'est le même nom en anglais quand on dit Grant. C'est un nom très beau dans un sens, parce que ça veut marquer le fait que l'enfant nous est donné par Dieu. C'est pas nous qui faisons nos enfants, c'est Dieu qui les donne. Alors on ne sait de ce Dieu donné, de ce Deus Dedit, qu'une vision qui nous a été rapportée par Saint Grégoire le Grand. On qualifie Dieu donné de confesseur, d'artisan. C'est un artisan, hein. C'est pas un prêtre, c'est pas un clerc, c'est simplement un artisan, un travailleur du VIe siècle. Et Saint Grégoire le Grand nous rapporte une vision d'un soldat qui est très belle. Elle vaut de très longues histoires, puis pourtant elle est très courte. Le soldat voyait construire au paradis, une maison, comme jamais on en vit, toute en briques d'or. Et le soldat voyait donc dans cette vision ceux qui la bâtissaient. C'étaient de jeunes garçons, et même des fillettes, et des vieillards. Et il ne travaillait que le samedi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est patron des gens qui travaillent durant la fin de semaine, surtout le samedi, pas le dimanche, évidemment. Et cette demeure magnifique que le soldat voyait dans la vision au ciel, elle avançait lentement mais sûrement. Or, le soldat avait pu remarquer que tous les samedis, son voisin, qui était cordonnier, Deus Dedit, Dieu donné, s'en allait porter à l'église ses économies de la semaine. Pourquoi? Pour rassasier les malheureux. Il les prenait en pitié. Et bien sûr que il choisissait entre tous les orphelins qui avaient le plus besoin d'aide et les vieillards. Et c'est ainsi que notre soldat, Dieu donné, ébloui, c'est-à-dire le soldat qui voyait la vision, là, ébloui, eut la révélation que Dieu donné, par sa charité, se construisait, comme on dit dans les vieux textes de Saint Grégoire le Grand, se construisait une demeure éternelle. En somme, les actes de charité que l'on pose nous construisent au ciel une demeure éternelle. une demeure tout en briques d'or. C'est un conte très très beau et très sympathique, qui va tout à fait avec notre sœur Clotilde Joubert, qui était petite sœur de l'Assomption, qui s'occupe des pauvres, mais qui vient aussi avec Saint-Laurent, qui lui était diacre, archidiacre. Il s'occupait des pauvres aussi dans l'Église primitive. Il a été martyrisé, affirme-t-on, en 258, il y a bien longtemps. Mais c'est un saint tellement important pour nous au Québec que ça vaut la peine de s'étendre sur son cas. Ça faisait à peine 50 ans que Saint-Laurent était mort quand l'empereur Constantin a fait élever une basilique au-dessus de son tombeau. Ce diacre avait été enterré dans une petite catacombe située sur cette voie à Rome qu'on appelle la voie Tiburtine. Il avait fait enterrer dans la propriété d'une femme du nom de Syriac, à l'est de Rome. C'est là que la basilique s'est élevée. Et sous Constantin, la crypte où reposait le corps de Saint-Laurent fut agrandie et embellie. Deux escaliers la relièrent à la basilique construite au-dessus. Des tas de transformations qui ont modifié tellement l'édifice qu'il est bien difficile maintenant, aujourd'hui, au XXe siècle, de reconstituer tous les états successifs de ces constructions, hein, comme on l'a fait à Saint-Pierre de Rome. C'est très intéressant quand on va à Saint-Pierre, au Vatican, de voir les différentes constructions des basiliques les unes par-dessus les autres, dont on a les traces. Hein. C'est là qu'on trouve, d'ailleurs, sous l'autel du pape, comme je vous l'ai déjà dit, le tombeau de Saint-Pierre au Vatican. Mais là, le tombeau de Saint-Laurent n'a jamais été déplacé. Le pape Pélage II, qui a régné à la fin du VIe siècle, dont passablement plus tard, a transformé la crypte dans une église magnifique. Il a placé une grande mosaïque à l'arc triomphal. Il avait conservé la basilique de Constantin, mais comme elle était en ruine quand Honorius III, au XIIIe siècle, a défoncé l'abside, il a doublé la longueur de l'église, la nef qui avait été édifiée par le pape Pélage a été comblé jusqu'à mi-hauteur, c'est devenu le nouveau cœur. En tout cas, c'est considérable, c'est très intéressant. Et savez-vous que, à travers les siècles, Saint-Laurent était tellement important, mais tellement important, vous verrez ça petit à petit comme l'importance de ce saint, l'importance qu'il a prise, et c'est à cause de cette légende qui l'entoure, ou peut-être historique, on ne sait pas, on n'est pas sûr. Les historiens de l'Église ne sont pas sûrs, mais c'est très beau. Alors on trouve, en particulier dans ces beaux livres sur les vies des saints, qui sont en 11 volumes et qui s'appelle L'histoire des saints et de la sainteté chrétienne, publié chez Hachette, d'immenses volumes reliés en rouge, c'est somptueux, avec des photos en couleur, eh bien, il y a des reproductions, justement, de mosaïques dans la basilique de Saint-Laurent. Il y a aussi une reproduction d'une mosaïque à Ravenne qui est absolument superbe. Je l'avais vu, d'ailleurs, dans cette au mausolée de Gallia Placidia. C'est superbe. Il y a aussi Frangelico qui a fait des peintures magnifiques au Vatican, dans la chapelle Nicolina du pape. C'est un pape qui avait fait faire ça, le pape Sixte. C'est superbe ce que Raphaël a fait. Hein. Il y a aussi Rubens qui a fait le supplice de Saint-Laurent qui a été grillé. Grillé, imaginez. C'est terrible, si c'est bien authentique. D'ailleurs, il dit pendant son supplice à son bourreau, « Serruti de ce côté-là, retourne-moi et mange. » C'est terrible, mais terrible. Ces récits sur les martyrs sont épouvantables. Mais ça vaut la peine d'être lu et d'être commenté. La fête de Saint-Laurent était célébrée déjà au début du IVe siècle, vers l'an 300 quelque chose. Elle était célébrée très vivement, hein. Tous les témoignages très précieux ne nous apprennent cependant pas grand-chose de la vie de Saint-Laurent. On ne trouve aucun texte avant une inscription que le pape Saint-Damas a fait poser dans la basilique Saint-Laurent hors les murs, la grande basilique Saint-Laurent. Et elle a disparu, mais les pèlerins du haut Moyen-Âge nous en ont conservé le texte. Je vous lis rien que les deux premiers vers. Les fouets du bourreau, les flammes, les tourments, les chaînes. Seule la foi de Laurent a pu les vaincre. Ça résume en somme tout le combat du christianisme. Les chrétiens ont beau être fouettés, entre guillemets, brûlés, entre guillemets, tourmentés, ça ils le sont, enchaînés, entre guillemets. Seule la foi des chrétiens peut vaincre ça. Un mot accroche d'ailleurs notre intérêt là-dedans, les flammes. Hein? Et ça rappelle le grill de Saint-Laurent, où il a été rôti. Cette passion, depuis la fin du IVe siècle, nous est rapportée, et elle a été transmise à travers toutes sortes de récits. On peut garder certains détails. Il y a un anachronisme qui est à la base de tous les récits, mais je vous en fais grâce. En tous les cas, le pape Saint-Sixte est arrêté à Rome. Il mourra d'ailleurs martyr. Et après un premier interrogatoire, il est conduit en prison. Et on raconte que sur le chemin où on le conduit en prison, le pape Saint-Sixte, il rencontre Laurent. Et il lui demande, où vas-tu? Et Laurent lui dit, où vas-tu, père, sans ton fils? Vers quel but as-tu donc, prêtre saint, sans ton diacre? Tu n'as jamais eu l'habitude d'offrir le sacrifice sans ton ministre. Qu'est-ce qui t'a déplu en moi, père? Est-ce que tu m'as trouvé indigne? Éprouve-moi. Et vois si tu as fait choix d'un indigne ministre pour la distribution du sang du Seigneur. Est-ce que tu refuseras à celui que tu as admis au Saint-Mystère d'être ton compagnon pour verser son sang? Ne crains-tu pas que, tandis qu'on admire ta force, on ne te blâme d'abandonner ton diacre? Je vous fais grâce de toute la suite, c'est très long, mais c'est très sympathique. Hein? C'est tout le cri d'un diacre. Et j'en profite pour saluer des diacres qui m'écoutent, puisque nous avons ressuscité dans l'Église récemment cette pratique d'avoir des diacres perpétuels. Eh bien, c'est le cri du diacre qui est vraiment un ministre de la communion, pas de la consécration, mais bien de la communion et de la prédication, s'ils ont le droit de prêcher, et qui interpelle le pape, son père, auquel il était attaché, et qui se prépare finalement en proclamant ainsi sa foi devant les gens qui ont arrêté le pape, il se dirige vers le martyr, évidemment. Et on raconte que l'évêque Sixte lui a répondu, « Non, mon fils, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas, mais de plus grands combats te sont réservés. » Et là, il y a tout un long discours du pape. Il lui dit à la fin, « Reçois les richesses de l'Église, ou ses trésors, et distribue-les à qui il te semblera bon. » Car l'Église avait reçu des dons, avait accumulé un peu d'argent. Laurent s'est occupé aussitôt de distribuer aux clercs et aux pauvres les richesses qui lui avaient été confiées. Sur le mont Chilius, il trouva une veuve nommée Syriaque, que l'on fête le 21 août. Et qui cachait ses ailes beaucoup de chrétiens. Alors il y est allé de nuit en apportant des vêtements et de l'argent. Il a lavé les pieds des chrétiens, il a guéri Syriaque de certains maux de tête en posant sur elle un linge avec lequel il avait essuyé les pieds de ceux qu'il appelle les saints. Laurence est allé ensuite dans la maison d'un dénommé Narcisse, puis chez un crescentien qui fêtait le 17 septembre, un aveugle, auquel on dit qu'il aurait raconté la vie. Et puis ensuite, il est allé dans la crypte de Népocien, où il a trouvé 63 chrétiens, des hommes et des femmes, avec le prêtre Justin, qui sont célébrés aussi le 17 septembre. Il leur a lavé les pieds, il les a secourus. Vous voyez que c'est très légendaire, tout ce conte, qui permet, au fond, à un diacre qui affiche sa foi, qui possède un trésor que le pape lui remet, et les soldats l'auraient laissé fuir, ça tient pas debout, hein. Mais c'est un conte très beau quand même. Donc on raconte que le pape Sixte a été jugé, condamné à être décapité sur la voie Appienne, qu'on peut toujours voir à Rome, et Saint Laurent s'est rendu sur son passage et a crié, « Ne me laisse pas, Père Saint, parce que j'ai déjà distribué les trésors que tu m'avais confiés. » Alors, en entendant, il voit encore le pape une deuxième fois, hein, c'est assez curieux. Alors, entendant parler des trésors, c'est là que les soldats se sont emparés cette deuxième fois le de Laurent. Ils l'ont conduit au tribun, Parthénius, dit-on. Toutes sortes de détails qui nous sont donnés et qui sont exagérés. Alors, le tribun, lui, avertit l'empereur, qui s'appelait Dèce. Et heureux de cette nouvelle, ben, cet empereur a fait venir Laurent, croyant mettre la main sur le trésor. Il lui a donné, sous menace de mort, de livrer ses trésors. Il l'a confié à la garde d'Hippolyte, qui est célébrée le 13 août, dans quelques jours. Et dans sa prison, Laurent a guéri, a converti, a baptisé un aveugle nommé Nutilus. Vous voyez, il guérit, commence par la guérison, c'est tous des symboles du Christ. Il convertit, puis il baptise un aveugle, quelqu'un qui ne voit rien donc. C'est un symbole, hein? Nommé Nutilus, c'est ce que disent les commentateurs, là. Si vous préférez croire que c'est vrai et authentique, c'est libre à vous. Hein? Et il rend la vue même à beaucoup d'autres qui sont accourus au bruit de ce miracle, hein? Des aveugles qui viennent pour voir. En somme, des gens qui n'ont aucun sens à leur vie, c'est le symbole, et qui trouvent dans le cœur de Laurent, dans sa foi, au Christ vivant, ils trouvent un sens à leur vie. C'est un peu comme notre bienheureuse Edith Stein d'hier, qui disait dans son autobiographie que c'est au contact du Christ, de Dieu incarné, de l'amour qui habitait le Christ, qu'elle a trouvé la foi et trouvé Dieu. Et c'est très beau ces textes d'Edith Stein. Il faut lire cette grande conversion de cette grande intellectuelle dont on a parlé hier. Alors là, on dit que Laurent a baptisé ensuite le fameux Hippolyte, qui est célébré le 13 août, avec 19 personnes de sa maison. Et l'empereur Valérien l'a fait, c'est-à-dire Valérien, notre empereur, l'a fait amener Laurent et lui dit, « Cesse de t'entêter, réponds-moi au sujet de ces trésors qui ont été amassés chez toi. » Et Laurent lui répond, « Donne-moi un délai de 2 ou 3 jours et je les rapporterai. » Et Laurent employa les 3 jours qu'on lui laissa, c'est toute une histoire, hein, a amené secrètement dans la maison d'Hippolyte des aveugles, des boiteux, des malades, des pauvres. Puis au bout de 3 jours, il se présenta devant l'empereur, et l'empereur Dèce, puis là le préfet Valérien, pardon, et Dèce lui demanda, où sont les trésors? C'est charrié par l'histoire à travers les siècles, et c'est très très beau parce que j'aime bien que l'on nous ait gardé cette espèce d'histoire ou ce conte. Où sont les trésors que tu as promis de présenter? Et Laurent a amené dans le palais les pauvres qu'il avait guéris. Il a annoncé, voici les trésors éternels qui ne diminuent jamais et augmentent toujours, qui sont répandus en chacun et se trouvent dans tous. Écoutez bien cette parole qui date de très longtemps. Hein. Voici les trésors, les pauvres. Vous savez, les pauvres qui quêtent à la porte de nos églises, qui s'étendent sur les bancs de certaines de nos églises, on les accepte de plus en plus, qui dorment, qui ronflent pendant la messe et nous dérangent souvent quand on assiste à la messe. Mais ça n'a pas d'importance, au fond, ces pauvres gens, ces pauvres malheureux. Voici les trésors éternels, qui ne diminuent jamais et augmentent toujours, qui sont répandus en chacun et se trouvent dans tous. Et là, le préfet Valérien a répliqué, « Qu'attends-tu? Sacrifie aux dieux. » Et Laurent lui a répondu, « Pourquoi le diable vous pousse-t-il à dire aux chrétiens, sacrifie aux démons? Est-il juste que nous préférions les démons aux créateurs des choses visibles et invisibles? Jugez vous-même qui doit être adoré, celui qui a été fait ou celui qui a fait. » Le démon a été fait. Mais Dieu a fait. L'interrogatoire se poursuivit et bientôt les tortures ont commencé. Alors là, les flagellations, les lames rougies, les verges, les lames ardentes, les fouets plombés, les scorpions, qui ne purent vaincre la patience du martyr, mais un soldat nommé Romain s'est converti et fut exécuté immédiatement, et lui, il est célébré le 9 août. Et l'empereur Dèce a ordonné de meurtrir la bouche de Laurent avec des pierres pour qu'il se taise. Puis il a dit, apportez un lit de fer pour que Laurent y repose. Et là, on a apporté un lit en forme de grille, et après l'avoir dépouillé de ses vêtements, on y étendit le rein. Puis, on l'attachait pendant qu'on mettait en dessous des charbons ardents, et l'empereur d'Est a dit « Sacrifie au Dieu ». Il a répondu « Moi, je m'offre à Dieu en sacrifice d'odeur agréable, parce qu'un esprit contrit est un sacrifice à Dieu. » Même si tout ça n'est pas vrai, c'est très beau. Et nous devons nous offrir à Dieu dans l'amour comme un sacrifice d'odeur agréable, car c'est l'amour qui fait de notre sacrifice quelque chose qui est merveilleux pour Dieu, car Dieu n'attend que l'amour et ne nous offre que l'amour. Parce qu'un esprit contrit est un sacrifice à Dieu, dit Laurent. Et là, les bourreaux ont continué à activer le feu. Il serrait le martyr toujours plus étroitement. Il leur en dit, « Apprends, malheureux, que les charbons m'apportent un rafraîchissement et à toi un supplice éternel. Parce que le Seigneur sait que j'ai confessé le Christ, maintenant que je suis cuit, je rends grâce. » Et se tournant vers l'empereur, il dit, « Voici, misérable, tu as cuit un côté, eh bien retourne et mange. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que j'ai mérité de franchir les portes de ton royaume. » Et aussitôt, il a rendu l'esprit, nous raconte le vieux texte. Et Hippolyte, saint Hippolyte, et le prêtre Justin l'ont enterré secrètement dans la propriété de la veuve syriaque. Maintenant, j'aimerais vous dire un mot de la propagation de ce conte merveilleux qui entoure Saint-Laurent et qui est superbe au fond, hein, tragique, mais superbe de foi, de courage, de ténacité et de respect des plus pauvres. On dit que saint Ambroise, ce grand saint Ambroise de Milan, a propagé cette passion énormément dans ses écrits et qu'on reconnaît dans le dialogue que je vous ai lu en partie, c'est très bref ce que je vous ai lu, eh bien on reconnaît le style de saint Ambroise. Il y a aussi Prudence qui a raconté dans une longue pièce de vers la passion de Saint-Laurent. Hein. Vous savez que dès la fin du IVe siècle, on attribuait à Saint-Laurent un amour spécial pour la ville de Rome et Sasculici, ce qui lui a valu d'en devenir à Rome le troisième patron après Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, il y avait Saint-Pierre et Saint-Paul qui étaient les grands patrons de Rome et ensuite notre Saint-Laurent, qui est au fond un peu le patron du Québec dans un sens, ayant donné son nom au golfe Saint-Laurent, au fleuve Saint-Laurent. Et comme je vous ai dit, à Ville-Saint-Laurent à Montréal, à Saint-Laurent, à l'île d'Orléans, les Laurentides, etc., c'est fantastique. Quand on pense, nous sommes recouverts du nom de Saint-Laurent. J'en profite pour saluer un ami, le chanoine Laurent Cadieux, dont c'est la fête. Finalement, aujourd'hui, il est aumônier d'une résidence, la résidence Berthiaume du Tremblay. Et alors, Saint-Maxime de Turin, Saint-Augustin, aussi nous ont laissé des sermons qui ont été prononcés à la fête de Saint-Laurent. Et Saint-Augustin se plaint un peu de ses diocésains. Saint-Augustin, qui n'était pas évêque à Rome, il dit « Le martyr de Saint-Laurent est illustre, mais à Rome seulement, et pas ici, si j'en juge par votre petit nombre qui sont venus m'écouter. Il n'est pas possible de cacher la gloire de Laurent. Comment est-ce qu'il peut encore être ignoré dans notre ville ?» Je ne puis le savoir. Et le grand évêque, Saint-Augustin, raconte l'épisode des pauvres, que je vous ai raconté tout à l'heure, qui sont le trésor de l'Église, et la mort sur le grill. Mais il ne s'attache pas nécessairement à toute la lettre exacte de la Passion. Dès donc le IVe siècle, la fête de Saint-Laurent comportait une veillée solennelle de prières. Aucun saint, en dehors des apôtres Pierre et Paul, n'avait obtenu de tels honneurs. Ce qui montre, n'est-ce pas, l'éclat extraordinaire de cette fête qui nous fait penser aux plus pauvres. Au Moyen Âge, il y eut à Rome au moins 34 églises dédiées à Saint-Laurent, pour vous dire l'attachement qu'on avait à travers Saint-Laurent pour les plus pauvres. Et à partir du 8e siècle, le lieu du martyr de Saint-Laurent, qui n'est plus inconnu, là, c'est dans la crypte de cette basilique Saint-Laurent hors les murs, qu'on vénère les reliques et tout ça. Et le culte hors de Rome s'est répandu dans le monde. En France, 94 communes portent son nom. Et puis, les Espagnols aussi le vénèrent beaucoup. Quant à la valeur, évidemment, du texte de la Passion, je vous ai dit que les historiens le mettent bien en doute, y compris les bénédictins de Paris qui ont écrit un immense martyrologe en 13 volumes dans lesquels j'ai beaucoup puisé. Mais ils ne rejettent pas tout. Et je crois qu'on, sans savoir au juste qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on peut retenir qu'il y a là au fond de cette grande et magnifique légende des vérités fondamentales que nous devons préserver. En tous les cas, on célèbre le 10 août ce grand martyr, ce saint qui nous a donné le sens du respect des pauvres. L'empereur Valérien n'a jamais décrété, croit-on, la confiscation des biens des églises, mais on peut dire que souvent les biens des églises à travers les siècles ont été confisqués, ce qui a empêché souvent de l'Église d'aider vraiment les pauvres et de construire des hospices, des orphelinats, etc. Donc, vénérons Saint-Laurent aujourd'hui. Tout à l'heure, je vais vous parler d'une grande servante des pauvres, sœur Clotilde Joubert. J'aimerais vous signaler, avant de vous parler de sœur Clotilde Joubert, d'autres Saint-Laurent, pour ceux qui s'appellent Laurent et qui seraient intéressés, je vous rappelle que vous écoutez présentement Rencontre spirituelle, diffusée tous les jours à 11h à Radio Ville-Marie, du lundi au vendredi. L'émission est en reprise le soir vers 5:30, 10:00. Donc, les autres Saint-Laurent, il y a Saint-Laurent de Brindisi, dont je vous ai parlé le 21 juillet. Il y a aussi Saint-Laurent Imbert, un Français, prêtre des missions étrangères, qui a été missionnaire en Chine puis en Corée. Il a été torturé en 1839, et je vous en parlerai, lui, le 20 septembre. Donc, le 20 septembre, un Saint-Laurent, Saint-Laurent Imbert. Le 28 septembre, Saint-Laurent Ruiz. Des saints merveilleux, malheureusement, si peu connus. Et donc, je vous parle d'une inconnue, une grande inconnue, Clotilde Joubert. Je fais ça en hommage à toutes ces religieuses ignorées, à toutes les mères de famille pour toujours inconnues, aux femmes courageuses là qui vivent dans l'esprit de Jésus-Christ, qui ont toujours vécu pour Dieu et qui sont inconnues, comme notre petite sœur ou notre grosse sœur Clotilde Joubert. Je rends aussi hommage en même temps à ma belle-sœur Juliette Joubert, qui a été une mère de famille admirable et qui est décédée dans la fameuse épidémie de polio il y a déjà bien longtemps. Dans les années 50, elle est morte à 42 ans. Elle a laissé mon frère Louis avec 6 enfants. Il lui a été toujours fidèle. Son amour a duré jusqu'à sa mort, il y a à peine 2 ans, 3 ans, quand il est mort à 76 ans. Sœur Clotilde Marie, elle avait ajouté Marie à son nom. Sœur Clotilde Marie Joubert était, comme dit les vieux textes qui datent déjà de quelques années, était ronde. Comme je vous ai dit aussi au début de l'émission, la balance marquait un bon poids sous sa charge. Mais rien dans son allure n'était pesant, comme bien des personnes un peu grasses. Hein, on les voit marcher, elles sont comme légères. Et rien dans son visage n'indiquait quelque vulgarité que ce soit. C'était une bonne grosse sœur. Et Clotilde Joubert a eu la chance de naître, à la fin du siècle dernier, il y a une centaine d'années, dans un petit village des Hautes-Alpes, donc non loin de l'Italie, où les montagnes et le ciel se rencontrent, on dirait. Moi qui ai le goût toujours des montagnes, j'adore monter le plus haut possible. J'aime les passer des vacances sur les hauteurs comme ça et avoir une vue magnifique. J'ai déjà habité sur le Mont-Royal du côté du fleuve pendant près de 20 ans et que c'était beau de voir le fleuve, toute la rive sud, les montagnes aux États-Unis, les orages dans le ciel au loin, le soleil qui se lève très tôt le matin. Je faisais sonner mon réveil pour voir le soleil se lever. Que c'est beau, les paysages, la nature. Et un jour, d'ailleurs, dans son âge adulte, alors qu'elle contemplait la Méditerranée tout ensoleillée, elle, qui n'était pas habituée à la mer, elle a poussé une exclamation qui remonte du fin fond de son enfance et je dirais du fin fond des âges. Et elle crie devant d'autres sœurs, « Dire que Dieu a fait tout cela pour sa Clotilde. » Et c'est vrai que Dieu a tout fait cet univers pour chacun d'entre nous, tellement il nous aime. Toutes ces étoiles dans le ciel, tous ces arbres, ces fleurs, ces montagnes, ces rivières, on les retrouve, ça, ce chant d'admiration dans les psaumes, dans le Fils de l'Aude. Et on retrouve ça aujourd'hui dans cette spiritualité amérindienne qui semble aux oreilles de bien des gens comme toute nouvelle, mais elle est ancienne, très ancienne. On la retrouve dans la grande tradition chrétienne, la grande tradition catholique, dans les monastères, les chants des psaumes. Le matin, à l'aude, chante tout ça. C'est l'extase de l'âme chrétienne devant la création. Et lorsque la vie missionnaire de notre sœur Clotilde l'a fait descendre au fond de la misère des faubourgs dans les villes, elle a contemplé de ses yeux émerveillés avec la même puissance d'admiration, mais tout ce qui était recréé au fond des pauvres, ce soleil qui est Jésus, qui habite tout à coup un monde pécheur et le fait revivre. Elle a voué sa vie à ça. Faire jaillir dans la nature des âmes des pécheurs le soleil du Christ. Elle est allée très peu à l'école, juste ce qu'il fallait pour écrire d'une belle écriture régulière. Et comme on enseignait dans le temps, sans faute d'orthographe. Hein, je me souviens, on faisait très peu de fautes d'orthographe quand on avait 9-10 ans, quand j'étais jeune. Et cette connaissance de l'orthographe rendrait bien jaloux bien des étudiants d'université aujourd'hui. Son intelligence vive, sa mémoire remarquable, lui permettait d'apprendre facilement. Sœur Clotilde n'a jamais été une naïve, jamais, même dans son enfance. Dans ses veines coulait un sang qui est celui du sang des montagnards. Hein? Et les montagnards sont très, très, très fins parce qu'ils sont habitués de descendre de la montagne pour aller au marché. Ils sont habitués de rencontrer les gens de la plaine qui essaient de leur soutirer à gros prix des choses pour des choses qui ne valent pas qui n'ont pas grande valeur. Ils savent. Alors quand ils descendent dans la plaine, ils savent quoi faire, les montagnards. Un jour, elle rencontre un religieux de la congrégation de l'Assomption. Elle le rencontre sur sa route. Il lui parle des petites sœurs de l'Assomption du Père Pernet et de leur travail à Nîmes. Il y a de très belles arènes romaines à Nîmes. Hein? C'est beau à voir. Alors, ce qui pousse notre petite habitante, comme on pourrait dire, ou notre petite rurale, ou notre grosse rurale, à se diriger vers une mission d'ouvrier dans les bas-fonds des villes, on ne sait pas. Pourquoi elle y va? Parce qu'elle avait deux tantes religieuses dans une congrégation enseignante qui s'appelait tante Clotilde, dont elle avait le nom d'ailleurs, elle-même, et tante, écoutez bien ce nom, Symphorose, pauvre sœur qui a été affublée d'un tel nom. Or, quand Madame Joubert, la mère de Clotilde, descendait de la montagne pour faire ses courses en ville, elle laissait toujours sa petite fille à la garde des deux sœurs, les deux tantes. C'était le premier contact pour elle de la vie de couvent. Et ça s'est jamais fait dans un climat morose, car on sait, d'après ses souvenirs, qu'elle s'amusait énormément avec ses deux vieilles sœurs, dans un couvent où régnait beaucoup de tendresse et de joie. Mais elle s'est pas dirigée vers ce genre de vie religieuse, de sœur enseignante. On la retrouve à Nîmes et elle sonne au couvent des sœurs qu'on appelait les Pernettes, à la mémoire du fondateur, le Père Pernet. Ce sont les petites sœurs de l'Assomption. C'est elles qui avaient ce grand couvent sur la rue Hamel et qui ont cédé récemment leur couvent au Carme, hein, dont je vous ai déjà parlé, près du métro Henri Bourassa. Et là, elle entre dans le parloir, elle se trouve face à une religieuse qui s'appelle Mère Véronique Marie, qui est la supérieure de la maison. C'est une sœur un peu austère, mais elle n'est pas méchante. Elle a de l'humour. avait pas encombré sa congrégation, comme elle dit, de poules mouillées. C'est une femme de Dieu. Elle se fait pas scrupule de conscience devant une fille qui se présente. Elle se fait l'avocat du diable, et devant cette fille qui est toute souriante, qui a l'air de pas trop savoir ce qu'elle fait, elle augmente l'aspect négatif de la vie difficile en communauté. Elle lui parle de la difficulté d'être une sœur. Et puis, elle remarque que sur la figure de notre petite Clotilde, elle est toujours souriante. Ça n'a pas l'air à lui faire peur. Et enfin, la mère Véronique Marie lui dit, « Enfin, mademoiselle, si vous vous présentez ici, c'est que vous désirez vous dévouer à la famille ouvrière. C'est notre œuvre. Les sœurs de Petite Sœur de l'Assomption vont dans les familles ouvrières où la mère est malade, le père est malade ou mourant ou est disparu. Puis elles font le ménage, elles lavent les enfants, elles les préparent à l'école. Il faut arriver là dans les maisons très tôt le matin, partir très tard le soir après avoir fait le ménage, s'est occupé des enfants. Souvent, il y avait beaucoup d'enfants. Ces sœurs étaient extraordinaires, d'un dévouement épouvantable. Je crois, j'espère qu'elles le font toujours, si elles ont encore des vocations. Ces pauvres sœurs disparues, on ne les voit plus, on ne les reconnaît plus dans nos rues, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on les voyait, on allait vers elles, on était contents de les voir. C'était des sœurs fantastiques, et je suis sûr qu'elles sont toujours merveilleuses. Mais en tous les cas, la sœur Marie, Véronique Marie, lui dit... Donc, vous dévouez dans la famille ouvrière, soignez les malades. Alors, serez-vous n'être venu ici que pour Dieu? Et si l'on vous employait à longueur de vie à faire la cuisine puis à raccommoder des robes? Et la réponse de Sœur Clotilde, c'était, on verra bien. On verra bien. C'est la bonne paysanne qui s'en fait pas. Et Mère Véronique juge que, sans s'engager outre mesure, évidemment, la responsabilité du supérieur, elle présente cette petite Clotilde, ou cette grosse Clotilde, et Clotilde se rend à Paris, à l'automne de 1913, à la veille de la guerre, et du premier coup, elle est de plein pied avec sa nouvelle existence. Cette fille du Sud ne dépérit ni de corps ni d'âme dans l'humidité de Paris, parce que à Paris, il pleut souvent, il y a souvent de la brume, ou presque, en tout cas, c'est gris souvent à Paris, hein. C'est pas ensoleillé comme à Montréal, Paris. Oh, il fait souvent soleil aussi, mais c'est surtout gris, à certaines époques, en tous les cas. Et l'hiver est très dur, là-bas. Le manque de chauffage, l'humidité, tout ça, c'est pas facile, Paris. Alors, elle est très fantaisiste, notre Clotilde. Et puis, elle aura bien des aventures. Son noviciat se passe pas dans la solitude. Hein. Au début de la guerre 14-18, on croit qu'il est préférable de transporter le noviciat ailleurs parce qu'il y a la grosse Bertha. Qu'est-ce que c'est que la grosse Bertha? Mais ce sont ces canons terribles, hein? Les canons que les Allemands avaient inventés. C'est un surnom qu'on donne aux canons lourds. Il y en avait plusieurs, d'ailleurs, qui avaient 210 à 240 millimètres. En 1918, ils se sont mis à tirer sur Paris d'une distance de 120 kilomètres. Je me souviens, quand j'étais jeune, dans les années 30, on nous parlait de ça, la Bertha, la grosse Bertha, comme on disait. Alors, ils partent le plus loin possible vers l'ouest. Et que dans difficile, les trains, il n'y en a pas toujours, c'est pas toujours à l'heure. Et puis, c'est au mois d'août, il fait chaud, hein? Très, très chaud, mais il faut apporter des vêtements d'hiver, mais il faut pas apporter de bagages. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enfiler sur soi tout ce qu'on peut endosser. Les robes, les manteaux, les chandails. Alors, la pauvre, elle devient encore plus grosse, elle ruisselle de sueur. Et après 2 jours de cahotement dans les trains de 3e classe, mais toutes ces novices, il y en avait beaucoup dans le temps, elles abordent aux environs de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Et là, un petit séminaire est mis à leur disposition. Un coin d'ombre, un plancher sur lequel étendre les paillasses. Là, la nuit vient, et Dieu soit béni, elles peuvent enfin dormir. Mais tout à coup, elles entendent du bruit de bottes qui les réveille tout à coup. Alors, elles regardent en dehors des couvertures. Elles sont un peu terrifiées, ce sont des officiers d'artillerie en colonne rangée qui viennent perquisitionner dans le local et font irruption dans le dortoir. Alors, ce sont des soldats dans le couvent, les mousquetaires au couvent, comme il y avait une opérette populaire dans le temps. Hein. Alors, elles doivent chercher le gîte ailleurs, parce que là, les soldats s'installent dans leur séminaire. Alors, il faut encore emballer toutes les choses et puis déballer. Et alors, notre Clotilde s'initie, durant son noviciat, ce que c'est que la vie de pauvreté, la vie de mortification, la vie d'obéissance aux divers événements. Alors arrive le temps de préparer techniquement sa vie de missionnaire, missionnaire parmi les plus pauvres. Paris la rappelle. Alors une ambulance vient d'être installée dans un pavillon de la maison mère. Une ambulance, c'est-à-dire une espèce de petit, je dirais un CLSC, quoi. Alors c'est près des blessés. Elle s'initie à son travail missionnaire d'infirmière. Elle est près des fourneaux. Elle fait le ménage. Et le ménage l'absorbe beaucoup. Les tâches les plus humbles. Comment trouver le temps de penser à soi quand on a 50 soldats à nourrir et Sœur Clotilde s'oublie si bien qu'elle trouve le moyen de se faire oublier des autres? Ses sœurs sont préoccupées par le souci de l'heure. Les supérieurs tardent à la prévenir finalement de son admission à la profession. Et la date approche pourtant. D'où se serait rongée d'inquiétude, elle s'en fait pas. Elle sait l'amour de Dieu pour elle. Toute sa vie est basée sur l'amour que Dieu lui porte. Et elle est sûre de son appartenance à Dieu. Ça, c'est le résumé de la vie de cette petite sœur extraordinaire qu'a été sœur Clotilde Joubert. Le temps, pour elle, c'était un détail. Car son engagement est éternel. Et elle quitte pour quelques jours sa blouse, son tablier, ses mains dans les manches. Elle se livre à la paix d'une vie de prière durant sa retraite qui la prépare à ses vœux, à sa profession. Et c'est avec ferveur qu'elle reçoit ce second baptême, qui est pour une femme comme ça la profession religieuse. C'est un très grand jour pour une femme qui se donne à Dieu. Émettre ses vœux, les signer comme de son sang, mais c'est pas son sang évidemment, mais c'est comme si son sang passait à travers la plume quand elle signe sur l'autel. Ça l'enfonce pour toujours, dans son baptême, dans sa confirmation. Il faut avoir assisté à une profession religieuse pour voir le sourire qui habite la femme ou l'homme, ou la jeune femme ou le jeune homme qui s'engage comme ça. Ils ont tant désiré ces instants-là où l'Église intervient une dernière fois dans leur vie, là, pour les donner à Dieu pour toujours, pour les spécialiser au service de Dieu. Que c'est beau! Moi, ça m'a toujours bouleversé. C'est comme une ordination sacerdotale. C'est bouleversant, que ce soit par le service qu'elles sont consacrées à Dieu ou par la prière dans les monastères, c'est toujours très touchant. J'ai toujours, moi, un émoi au cœur quand j'assiste à ça. Le lendemain de la profession, les novices d'hier se rendent dans le bureau de leur supérieur général et les unes après les autres, elles s'entendent nommer pour recevoir leur destination. S'en aller dans le nord, dans le sud, à l'ouest, à l'est, à la France, en France, ou à l'étranger. Elles sont obéissantes. Et son tour arrive, et on lui dit, « Sœur Clotilde Marie, vous restez ici, mon enfant. Vous serez chargée de la formation ménagère des postulantes, c'est-à-dire préparer les petites sœurs de l'Assomption, à faire le ménage. » Tout simplement. Travail ménager. Ça ne l'effraie pas. Son savoir-faire, ses muscles l'y rendent imbattable. Mais c'est l'adieu, du moins provisoire, à la vie qu'elle avait rêvé en venant frapper à la porte des petites sœurs. Elle rêvait de s'en aller à l'étranger. Mais Mère Véronique a eu une double vie quand elle avait prononcé ces paroles. « Vous ne mettrez peut-être jamais les pieds chez un malade. » Elle aurait voulu servir les pauvres dans les maisons. Mais elle faisait la cuisine. Il ne fait pas bon s'attarder à des pronostics fâcheux, dit-elle. Mais quel que soit le service d'une professe, dorénavant, il est sacré pour elle, pour Sœur Clotilde. Elle le pense bien sincèrement. Et nous savons qu'il n'est pas facile de faire ce que l'on pense. Et toutes les dispositions qu'elle avait, ainsi restée, pour ainsi dire, lettre morte. Il y a une nouvelle maison qui s'est ouverte à Marseille, à deux pas de ce quartier qui signifie en provençal le quartier de Menpenti. Ça veut dire « je me repens », Menpenti. Et si l'on veut parler d'apogée humaine dans l'existence d'une religieuse, mais ça se situe là, dans ce quartier difficile. Dieu fournit souvent, ici et là, des réalisateurs de premier ordre pour accomplir sa parole, pour accomplir son évangile. Et cette petite famille des sœurs de l'Assomption, à cet endroit-là, travaillait dans des foyers difficiles. Et c'est avec la fraîcheur de l'enthousiasme des débuts de sa vie de religieuse qu'elle a côtoyé des ouvriers, des serruriers, des ébénistes, des peintres. Et gémir, implorer, louer avec les psalmistes, ça n'allait pas tout à fait avec son cœur. Elle n'a jamais été gémissante. Elle s'est offerte à Dieu, totalement. Elle y vit avec ses sœurs quotidiennement les difficultés, mais elle n'en parle pas à d'autres qu'à Dieu. Elle étudie soigneusement en communauté ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit devenir. Son choix va aux plus pauvres, aux plus délaissés, aux déplacés, à tous ces Italiens qui fourmillent dans le quartier de Menpenti. Elle a laissé tout pour s'occuper des plus pauvres. Les aventures viennent à sa rencontre. Elle les raconte avec sa verge coutumière. Et dans le voisinage de la Canebière, là, comme on dit, c'était pas nécessaire de broder pour enjoliver les traits, comme on dit dans des vieux textes qui racontent sa vie. Tout lui vient, les problèmes, les difficultés. Un jour, on demande une petite sœur pour l'ensevelissement d'une vieille femme inconnue et Sœur Clotilde est envoyée. On ne sait jamais bien à l'avance ce qu'on va trouver derrière la porte où l'on frappe. Et cette fois-ci, dans une pièce mal éclairée, elle aperçoit sur un fauteuil immobile, la tête renversée, la bouche béante, une personne âgée. Elle se dit, c'est la défunte. Alors avant de lui rendre les derniers devoirs, elle s'agenouille dévotement à ses pieds, priant pour le repos de son âme. Mais elle est tirée de son oraison tout à coup par un magistral éternuement. La vieille se réveille et elle empoigne Sœur Clotilde par le bras. Elle la conduit dans la chambre voisine auprès de la vraie morte qui est sa sœur. Ses soins vont de longs mois à un dénommé Vincent. Vincent, c'est un pauvre gars de poissonnier, vendeur de poissons qui a attrapé la peste dans les cales d'un navire. Il est allé y chercher du papier pour plier son poisson, mais la peste se répand, puis la panique s'empare des gens dans l'entourage, et prudemment, de loin en loin, ben, sa femme, Vincent, ouvre la porte, elle garde son mari, puis elle va pas auprès de son mari, elle ouvre la porte, elle dit « Vincent, dit. Tu es mort. » Puis le pauvre Vincent mourant de répondre tranquillement, « Non, pas encore. » Et alors, son infirmière reste presque son seul trait d'union avec le monde. Et pour lui, elle est une incarnation de la bonne mère, cette vierge de la garde, comme il dit à Marseille. Et c'est ainsi qu'on appelle Sœur Clotilde. Et chaque matin, une autre malade lui demande de faire ses courses et Clotilde se renseigne sur les fournisseurs habituels. « Prenez une tranche de jambon, ma sœur, mais pas chez le charcutier du coin. Ces tranches sont si minces, peu chères, qu'on y voit la Vierge à travers. » On voit la Vierge à travers les tranches de jambon. Allez les chercher ailleurs. Et alors, elle prend tous les accents de Marseille, qu'elle a facilement parce qu'elle est méridionale. Elle invoque souvent la bonne mère. Elle travaille parmi les plus pauvres. Elle prend le bâton au fond de fondatrice. La guerre de 39 vient assombrir les pays les plus ensoleillés. Ça assombrit la région où elle travaille. le danger est si habituel que finalement elle n'a plus de crainte. Pour sœur Clotilde Marie, la soupe passe avant les bombes. Elle fait la soupe, elle fait les repas, et ça passe avant tout. Il faut pas laisser, par crainte d'une mort, peut-être, probable, faut pas laisser les gens mourir de faim. La faim amène la mort lente mais sûre. Il faut donc nourrir les pauvres. Quelques précautions s'imposent. Elle met sur sa tête, comme casque pour se préserver des bombes, une passoire en fer blanc. Ça fait rire tout le monde. Et puis, les patrouilles allemandes viennent de temps en temps. Les soldats viennent. Et sœur Clotilde n'a pas peur des Allemands. Elle ne craint rien. Elle continue. Le soldat, un jour, met son fusil en joue devant la sœur. Mais avec tranquillité d'âme, comme François d'Assise à Gobio, quand il allait prêcher au loup, sœur Clotilde Marie s'approche, elle caresse le canon du fusil, puis elle lui dit « Allons, mon ami, allons, baissez-moi cela, et venez m'accompagner. » Et l'on vit cette chose extraordinaire, un soldat d'Hitler induit en désobéissance par une petite sœur qui aimait les pauvres. Après la libération, sœur Clotilde continue à mener dans la mesure de ses forces toutes ses anciennes activités. Elle oublie parfois que la soixantaine, car elle a vieilli, réduit l'élasticité de ses membres. Il convient d'aborder les échelles avec crainte, mais elle fait une chute en bas d'une échelle. Et ça ébranle fortement son organisme, et à quelques mois de là, la nuit, sans que rien ne puisse le faire prévoir, en moins d'une heure, elle meurt. Elle meurt bien, avec beaucoup de foi. Sa foi d'enfant était devenue une foi d'adulte. Sans ses cassures, c'était la foi naïve d'une sœur converse, d'une petite sœur. Ces âmes si belles que l'on retrouve dans les communautés, je les aime d'un amour énorme. On passerait à côté de la vérité en cherchant chez sœur Clotilde autre chose. Elle possédait, à ceux qui se tenaient de son extraordinaire bonne humeur, elle possédait une force extraordinaire. Elle répondait dans un grand éclat de rire, « Ce n'est pas ma faute si Dieu a développé en moi les muscles du sourire. » Elle avait les muscles du sourire. Il faut conserver de cette sœur l'image d'une religieuse qui monte tout droit les routes d'une longue vie, la main qui est filialement posée où? Dans main de Dieu, dans celle de Dieu. Sœur Clotilde Joubert, des petites sœurs de l'Assomption.